France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit une invitée qui incarne parfaitement un basculement de notre époque. Quelqu'un qui n'est pas né à la télévision, qui n'a pas grandi dans les studios, mais qui a construit sa voix, son public et sa légitimité derrière un écran. Magla, de son vrai prénom Barbara, est une des créatrices de contenu les plus influentes de sa génération. Streameuse numéro 1 en France, figure centrale de Twitch, YouTube et des réseaux sociaux, elle a grandi avec Internet et surtout, elle a grandi grâce à Internet. Magla, c'est une trajectoire faite d'un vrai paradoxe, une grande timide devenue ultra exposée. Et cette semaine, elle franchit une nouvelle étape très symbolique. Elle participe à Danse avec les Stars, l'un des programmes les plus populaires de la télévision française. Mais derrière le spectacle, il y a une question plus large. Qu'est-ce que ça dit de notre époque quand les talents viennent d'Internet pour investir le mainstream? Et surtout, qu'est-ce que ça fait intimement de passer d'un espace que l'on contrôle, un espace où on est regardé par des millions de personnes qui ne vous connaissent pas tout le temps? Magla est avec nous à La Régulière.
France Inter. Régulière. Mehdi Maizi.
Bon, c'est un TikTok absolument pas d'utilité publique, mais j'ai besoin d'extérioriser. En fait, sur TikTok, j'ai des pubs. Je comprends pas ce que c'est. Et à chaque fois, mais c'est terrorisant. C'est soit des scènes de cul, soit des trucs ultra violents. Au secours, mais TikTok, quoi.
C'est un vrai sujet.
Un sujet très important.
Je comprends pas mon algorithme TikTok non plus. Bonjour Magla, comment ça va?
Ça va et toi? Vous avez choisi le bon extrait, hein, c'est bien.
Et c'est vraiment, si t'aimes pas, c'est mon réalisateur. C'est vraiment,
moi, je ne me permettrai pas de dire ça. Mais je vois qu'il vit la même chose que moi sur TikTok.
Oui, mais moi aussi vraiment.
Oui, tu sais, les pubs un petit peu bizarres qui sont mal jouées. Des fois, j'ai des trucs bizarres.
Absolument. Et puis même, enfin, c'est un autre sujet, mais je ne comprends pas l'algorithme TikTok. C'est un autre sujet très compliqué. Tu es là évidemment parce qu'il y a une énorme actualité. On l'a dit. Mais commençons peut-être par, non pas le commencement, mais en tout cas par un fait, le fait d'être une des personnalités les plus regardées sur YouTube, d'être, ce que j'ai dit en introduction, la streameuse numéro 1 en France, qu'est-ce que ça te fait d'entendre toutes ces choses-là, sachant que toi, tu as commencé il y a longtemps sur Internet, que tu n'as pas commencé forcément en ayant ces ambitions-là, que tu as vu aussi YouTube, Twitch évoluer, les réseaux évoluer, que tu es passé... tu as vu comment ces canaux ont évolué. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça?
Alors déjà, ça fait toujours bizarre... Parce que moi, j'ai toujours l'impression d'être ce petit bébé devant sa caméra avec son lit mal fait derrière en stream qui fait son petit jeu vidéo. Et aujourd'hui, je me dis, bon, bah, j'ai fait le GP Explorer, j'ai défilé, je fais Danse avec les Stars.
Ouais.
Et ça fait très bizarre. Alors, je suis contente parce que je me dis que ça veut dire que ça évolue et c'est un métier qui se fait découvrir de plus en plus et que ça sera de plus en plus émergent, même si très compliqué d'en vivre et d'être dedans. Mais tant mieux.
Ça qu'il faut dire, c'est que les grandes créatrices de contenu, vous êtes finalement pas tant que ça en réalité. Les gens qui peuvent en vivre bien, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur vous, sur l'argent que vous gagnez. Il y a aussi énormément de gens pour qui c'est compliqué, parce que c'est une économie qui est précaire sur Internet en réalité.
C'est très particulier. En réalité, on est un tout petit pourcentage de personnes qui percent.
Ouais.
Et j'avais vu une stat, alors il faudrait la vérifier. Vérifiez toujours les sources qu'on vous donne de toute façon. Mais si tu as plus de 20 viewers, donc c'est les personnes qui te regardent sur Twitch, tu fais partie du haut du panier.
Ouais.
Parce qu'en fait, t'as tellement de streamers qui essayent d'émerger que tu te rends pas compte, mais 2-3 viewers, il y a beaucoup, beaucoup de gens.
Ouais, tout
donc,
à fait.
Donc, c'est un métier qui est très compliqué et c'est un mélange de chance, d'être au bon endroit au bon moment, de talent. Enfin, c'est un mélange de beaucoup de choses. Et des fois, tu sais pas comment tu fais pour arriver là. Moi, c'est un peu mon cas, je savais pas.
C'est aussi parfois, j'imagine aussi, il y a évidemment toi, tes qualités, et puis il y a aussi une part de, je pense, ta personnalité. C'est ça aussi qui doit être particulier, c'est que parfois, tu sens que les gens sont attachés à toi sans forcément te connaître. Et ça, j'imagine que c'est un facteur qui est pas toujours évident à maîtriser parce qu'il y a des gens qui t'aiment sans forcément te connaître à la vie, etc. Comment tu gères ce moment-là où parfois ta personnalité peut-être ne t'appartient plus?
Ah, ça, c'est un vaste sujet. Déjà, il y a le fait de dire, mince, les gens, ils apprécient qui je suis. Je me suis dit, ok, est-ce que je suis vraiment la vraie personne que je leur montre? Et ça, c'est un truc que je trouve trop important. Je veux être la même, de A à Z.
Ouais, sur les pour toi, il n'y a pas de différence entre Magla et la personne que tu es à la vie?
Non, vraiment, la seule différence, c'est le pseudo. Et le fait que je vais montrer moins de choses de la vie privée pour protéger aussi ma vie privée, ça t'apprend ça avec l'expérience à force. Non, c'est... C'est un métier qui est fou. Donc, C'était quoi l'action exacte du début? Je sors de danse, je préviens.
Exactement, c'est vrai, il faut le dire. Tu es venu alors que tu es en pleine répétition avant le prime. Mais non, le fait que tu sais, ta personnalité ne t'appartient plus. En fait, que les gens finalement vont même projeter des choses sur toi, parfois des fantasmes, ou parfois ils imaginent que tu es comme ça alors que tu ne l'es pas forcément. Enfin, tu n'es plus maître de comment les gens te voient en fait.
Il faut apprendre à lâcher prise. Et ça, je pense que tu apprends à le faire au fur et à mesure et avec l'expérience et en vieillissant. Au début, c'est dur parce que tu as envie que les gens ils comprennent ce que tu essayes de dire. Tu as notamment le problème des clips hors contexte où tu vas dire même pas. Tu as parlé pendant une heure, on va prendre 5 secondes. Oui. C'est pas représentatif.
Ça, c'est un vrai, pas fléau parce que c'est une tendance, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui peut faire du mal au créateur parce qu'on détourne ta parole en quelques secondes.
Et c'est horrible et tu as envie de crier, mais c'est pas moi, j'ai pas dit ça, je suis pas cette personne que vous pensez que je suis. Et en fait, il faut lâcher prise parce que si les gens veulent vraiment te connaître et savoir, ils vont aller voir plus loin. Les gens qui veulent pas savoir plus. Ils vont s'arrêter à ça et tant pis, ils vont se faire un avis. Et c'est pas des gens que tu veux dans ta communauté.
Ouais.
Mais c'est dur. Moi, j'apprends à le faire encore aujourd'hui. Et pourtant, ça fait 9 ans maintenant que je suis sur les réseaux. Et des fois, je me dis, mais l'image que je vous renvoie, est-ce que c'est vraiment celle-là? Et en vrai, même le conseil là-dessus, je pense, mais pour tout le monde, c'est d'avoir un bon entourage. Moi, des fois, j'envoie des clips à mon entourage en disant, est-ce que j'ai l'air d'être cette personne? Est-ce que je ressemble à ça? Si oui, je veux pas être cette personne, donc n'hésitez pas à mettre des petites claques, parce que j'ai envie d'être une bonne personne, la meilleure version de moi-même tous les jours. Et en général, ils sont, non, c'est vraiment détourné, ça te ressemble pas, c'est du hater aussi.
Bien sûr.
Donc, quand ton image t'appartient plus, c'est dur, parce que moi, je le comprends pas forcément toujours. Et j'ai beaucoup de mal avec l'injustice. Souvent, c'est injuste.
Ouais.
Mais il faut lâcher prise. Il faut apprendre à le faire.
Puisqu'on parle de tes contenus, évidemment, aujourd'hui, tu es une créatrice qui est importante même sur YouTube. Tu fais différents contenus de divertissement. Mais à la base, tu commences sur Twitch avec les jeux. Tu joues aux jeux vidéo, en fait, à la base, c'est ça. Le point de départ, c'est comme ça que tu commences. Est-ce que c'est ton amour des jeux vidéo qui te donne envie de te lancer sur Twitch?
Carrément. Ouais. Moi, j'ai baigné dans le jeu vidéo.
Ouais.
Mes plus vieux souvenirs, c'est j'ai un ordinateur à la maison. Et je pense que c'est l'un de mes plus vieux souvenirs avec Adibou. On jouait à d'autres jeux.
Adibou, oui.
Adibou, c'était trop bien. Bon, après, on jouait à Resident Evil. On avait 8 ans, c'est pas bien.
Tu jouais avec tes parents, je crois, en plus, toi.
Ouais. C'est ça. En gros, moi, j'avais mon papa qui jouait à ce qui sont des MMORPG. Donc, c'est des jeux en ligne, très heroic fantasy, etc.
Des jeux de rôle.
Jeux de rôle, ouais, c'est ça. Mais donc, avec des forums liés à ça, etc. Donc,
Il était cool, le père.
Mon papa était très cool. Ouais. Ma maman aussi. Avec ma mère, on jouait aux jeux d'horreur. Et aux jeux d'enquête.
C'était encore plus cool du coup.
Les deux étaient un mélange. Et c'est vrai qu'ils m'ont donné cette passion du jeu vidéo. J'ai eu la chance d'avoir un parcours très atypique là-dessus. J'étais une très bonne élève, donc ça jouait. Ils me laissaient jouer parce que j'avais des bonnes
notes. Tu gagnais de la liberté en ayant des bonnes notes.
Ouais, grave. Moi, c'était vraiment, j'étais récompensée au Kinder Surprise et au jeu vidéo. C'était mes deux piliers dans ma vie.
Très bien.
Et du coup, quand j'ai commencé à faire du jeu vidéo sur Twitch, ça a plu aux gens et je me disais, mince, en fait, je peux avoir des potes. C'est pas forcément des potes, mais je dis, on peut parler de jeux vidéo, ça plaît aux gens, je vais découvrir des jeux. Et j'ai bâti tout le début de ma carrière sur du jeu vidéo et je suis pas forcément super forte. Juste, j'aime ça.
Mais c'est ta personnalité, encore une fois, et le fait que tu peut-être arrives à faire découvrir aussi des jeux à des personnes. Est-ce qu'il y a un jeu fort, un peu signature sur Twitch qui a marqué? Parce que parfois, tu as des générations de streamers qui naissent avec des jeux. Tu sais, ça peut être, Warcraft. Tu sais, est-ce que toi, il y a un jeu sur lequel tu as été plus assidu que d'autres?
J'ai des airs, on va dire.
Ouais.
Donc, les gens qui me suivent depuis très longtemps, des fois, arrivent en mode, moi, je viens de cette ère-là, j'ai eu une ère, beaucoup jeux d'horreur, j'ai eu une ère où je faisais que du FPS, donc des jeux de tir.
Ouais.
Et il y a une ère qui s'appelle l'ère Satisfactory, qui est un jeu de gestion où ton but, c'est de créer toute une chaîne d'usine, de A à Z. Et donc, tu dois beaucoup réfléchir, faire des calculs, etc. Ça, j'adore. Et sauf que j'ai un type de caractère qui fait que je suis vite dans l'addiction du jeu vidéo ou autre. Donc, je peux hyper focus pendant 15 heures de suite sur un jeu. Et ce jeu-là, tu ne t'arrêtes jamais. Tu as toujours un truc à faire.
Ok. Il n'y a pas de fin.
Jamais. Enfin, t'as une fin, mais il était en ce qu'on appelle une early access, donc il n'était pas encore terminé. Il rajoutait des choses tous les mois. Ce jeu-là, je me réveillais à 6 heures. Non, c'était terrible. Hein. J'étais ce qu'on appelle une puante.
Oui, c'est vrai que ça existe.
Ah vraiment, moi j'étais là-dedans.
Oui.
Hein. Toujours un peu, pour être honnête. J'ai joué à ça toutes mes vacances. Là, je suis tombée dedans. Et j'allais me coucher, il devait être 23h. Je pensais qu'à ça, je refaisais mes schémas et je me relevais le lendemain à 6h. Les gens pétaient des câbles, ils disaient mais Magla, il est 6h du matin, je te dis j'ai pas fini l'usine, d'accord? Là, j'ai un convoyeur à envoyer, là on n'a pas ramené assez de fer. Donc cette ère-là, ça a un peu marqué. J'ai pas de jeu qui a fait que ça a un peu plus pété ou autre, parce que j'ai toujours été très multigaming, donc je joue à tout. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a une nouvelle ère, qui est une ère où je garde le jeu vidéo pour moi. Ce que j'ai beaucoup partagé avec les gens, et les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression que quand tu joues du jeu vidéo, c'est facile, t'es chez toi, sur ton canapé. Ouais. Et en fait, il faut animer, jouer quand même un petit peu bien, trouver des trucs à faire, parler au chat.
C'est du divertissement.
C'est du divertissement. Et ça reste un métier qui est très passion, plaisir et de privilégié. Mais c'est pas la même chose que de jouer chez toi tout seul. Et j'avais perdu un petit peu le goût au jeu vidéo. Du coup, maintenant, je joue surtout aux jeux d'horreur et je fais ce qu'on appelle du react. Je parle avec les gens, j'en profite pour parler de sujets de société, etc. Et chez moi, je me pose, j'ai la console. En ce moment, c'est Elden Ring. Je suis sur mon canapé, je suis posée, je joue et je reprends plaisir.
Bon, je propose, évidemment, on va après ça parler de Danse avec les Stars et de vraiment l'actualité chaude pour toi. Mais avant ça, tu as participé au GP Explorer, tu l'as dit. C'était comment déjà ? Bonne expérience. Oh, évidemment, c'était incroyable.
Adoré. Mais dans quelle vie on me dit je peux piloter une F4 ?
Vie, Magla. Dans la vie que t'as choisie. Voilà.
Oui, mais tu sais que des fois, je me dis alors, je suis Barbie à la plage, Barbie pilote une F4, oui. Barbie danse, Barbie défile. Pour moi, ma vie n'a pas de sens. En fait, je trouve de base que la vie est absurde quand tu regardes en général.
Ouais.
Et on essaye tous de trouver un sens à la vie. Et en fait, le sens de ma vie, c'est qu'elle n'a pas de sens.
Eh bien écoute, en tout cas, sur le GP Explorer, il y avait aussi un album qui a accompagné cet événement, piloté par SCH, rien
incroyable.
Que ça. Donc je te propose qu'on écoute un morceau qui est d'ailleurs en playlist sur France Inter, c'est la collaboration entre Clara Luciani, Yamé et Sofiane Pamar, ça s'appelle Le Mur, on écoute ça tout de suite.
C'était que mon feu. Dès que je t'ai vu, j'ai su que ça serait douloureux. La célébrité m'appelle, elle est jalouse. Elle est piquée, c'est mort. Et va me rendre fou. Entre le sud et la scène, je suis dans le palace. Loin de toi et de nous. Ou d'une histoire d'amour. J'ai même pas une minute pour toi. Dans ma fast life, je peux pas ralentir. Es-tu sûr que tu veux me suivre? Pour le meilleur et pour le pire.
J'aime le sabotage, tu es trop sage. Si tu ne veux rien risquer, tu me perds au passage.
Sofiane Pamar, Yamé et Clara Luciani s'appelle Le Mur et c'est extrait de la compilation dédiée au GP Explorer.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sip and Gossip. Je suis avec un invité exceptionnel, je suis avec Moziman. En plus, t'as plein de petits cœurs, t'es grave
je suis dans le mood Sip and Gossip. Merci pour
Mais
ton invitation.
C'est trop bien, merci alors que t'as un emploi du temps de fou.
Et je suis plutôt très heureux.
On fait un peu les chippies des fois.
Donc ça, c'est un extrait de Sip and Gossip, qui est un de tes programmes sur YouTube, qui est un format podcast. Et je crois que c'est le dernier épisode en date, avec Moziman.
Exactement.
Qui est sorti il y a 12 jours, qui est déjà 900 000 vues, je crois, quelque chose comme ça. Donc
oui,
qui marche. C'est un podcast qui marche très bien. À quel moment, toi aussi, tu décides de te diversifier, d'aller sur YouTube et de ne pas uniquement être une streameuse ou en tout cas une joueuse de jeux vidéo.
C'est ça, il y avait le but de se diversifier un petit peu. Moi, ça faisait à cette époque 6 ans que j'étais sur Twitch et que je faisais différentes choses. J'étais bien dans mon confort, mais j'avais besoin aussi de me sentir plus créative. J'ai toujours aimé la création en général et quand je suis sur Twitch, je suis authentique, je parle, etc. Mais ça ne me laisse pas forcément de place pour tout ce qui est montage, avoir des idées de direction artistique.
Produire des choses parfois plus ambitieuses.
C'est ça. Et j'avais envie de me sentir capable. Et je me suis dit, est-ce que je le suis? Et je me suis dit, bon, bah, let's go, on va tenter YouTube. Donc, on a lancé donc avec toute une équipe de production, parce qu'on est obligé d'avoir une équipe sur des gros concepts. Je voulais faire des choses différentes de Twitch, parce que je me dis, ça ne sert à rien d'aller sur une autre plateforme pour faire pareil. Donc, ça lance des concepts, ça teste, ça écrit. Ouais. Et j'ai lancé ce podcast, Sip & Go Sip, avec son frère Flip & Go Sleep, qui sont un peu deux entités à l'Upside Down, tu vois. Et ça a pris plus que ce que je pensais. Et je m'éclate, je fais la direction artistique, alors j'ai des équipes avec, mais celle de Sip & Go Sip, c'est un peu mon petit bébé, parce que j'ai fait la déco moi-même. Ouais, les premiers épisodes étaient en live, parce que je voulais le faire en live, et je l'avais fait dans une pièce de chez moi, c'était tout petit, ça se voit pas du tout à l'écran, mais j'avais tout acheté, etc. Et c'était vraiment un peu, moi, mon craft à moi, quoi. Et j'avais envie, d'évoluer, d'être différent, d'explorer différentes facettes de ma personnalité, et aussi parce que bah, malheureusement, ça s'est un peu su sur les réseaux, j'avais été harcelée. Et à l'époque, j'avais beaucoup relié Twitch à ça. Parce qu'en gros, c'était arrivé là, et j'avais eu un blocage.
Twitch, ok.
Ouais, avec Twitch, et pourtant, j'aime cette plateforme. De mon cœur, je l'aime, je viens de là, et j'adore parler avec les gens. Et j'avais pas envie non plus de punir ma communauté en disant, mince, j'ai un blocage. Ça a été assez violent. Donc je me suis dit, je vais prendre une petite distance, j'ai besoin d'avoir d'autres plateformes où j'explore ça différemment, où je grandis aussi différemment, et on va voir ce que ça donne. Et puis ça a pris, étonnamment. J'aurais pas pensé autant. Et puis je suis trop contente. Je m'éclate.
Puisque tu l'évoques sur ce harcèlement qui a été effectivement violent, comme tu dis, il y a un de tes harceleurs qui a été condamné.
Ouais.
Est-ce que c'était aussi pour toi, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas une victoire, ou important de mener ce combat, de le mener devant la justice et de montrer qu'il pouvait aussi avoir des répercussions pour les choses qui pouvaient être dites en ligne?
Alors ça va paraître peut-être très étonnant ce que je vais dire, mais oui et non. Mettre quelqu'un en prison, ça ne m'est jamais arrivé. Quand je me faisais harceler par ce gars donc, qui était érotomane. Érotomane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui est... C'est un trouble mental.
Ouais.
Cette personne est persuadée qu'on est en couple, qu'on est amoureux, etc. Donc, il va s'inventer des vies par rapport à ça. C'est des gens qui doivent être pris en charge par des hôpitaux psychiatriques. Ouais. Et j'avais de la peine, même pour cette personne, en me disant, c'est pas son fait, forcément, il est malade. Et malheureusement, j'en souffrais énormément. Donc, ça a été compliqué, ça a été porté à la justice. Déjà, rien que ça, j'étais contente de me dire, bon, ça va être pris en charge. Il va être pris en charge aussi, c'est important. Et en fait, quand on m'appelle un jour pour me dire, il est en prison, et j'ai pas eu la satisfaction que je pensais avoir, parce que dans ma tête, je me suis dit, j'ai mis, moi, un être humain en prison, sa vie change par rapport à ça. Et j'ai eu énormément de culpabilité, bien que je sais que c'est pas moi, c'est ce qui s'est passé autour. Mais je l'ai pas vécu d'une bonne manière, on va dire. C'était, oui, je suis heureuse de voir qu'on a été écoutée. De l'autre côté, je suis malheureuse de me dire que oui, pour moi, je suis écoutée, mais combien de femmes ne sont pas écoutées? Et aussi, mettre quelqu'un en prison, c'est très particulier. J'ai mis du temps à m'en remettre. J'ai besoin de voir des psychologues, etc.
Donc toute cette histoire t'a vraiment impacté, du harcèlement
beaucoup,
jusque même à la résolution, entre guillemets. C'est quelque chose qui t'a laissé des marques, en fait.
Ouais, beaucoup. Et il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix qui est sorti après, qui s'appelle Mon Petit Reine, je sais pas si tu l'as
vu. Oui, absolument, c'est une série. Enfin, c'est une série qui est tirée d'une histoire vraie, d'ailleurs.
C'est ça, exactement. Et du coup, là, c'est un garçon qui vit ça par une femme érotomane. Alors, j'ai pas vécu exactement les mêmes choses que lui a vécu avec elle, etc. Mais le fait qu'on soit du point de vue de la victime, qui justement culpabilisait lui-même, ça m'a fait vraiment une sorte de. Ça m'a aidé, en fait. Je me suis dit, en fait, c'est normal ce que je vis. C'est normal de ne pas se réjouir que cette personne aille mal.
Tout à fait.
Enfin, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et maintenant, j'en suis sortie. Mais ça a été une période qui était compliquée. Et ça m'a fait remettre en question aussi énormément en me disant, moi, j'ai été écoutée parce que j'ai eu la chance d'en parler une fois sur un live. L'histoire est assez folle. J'en parle une fois sur un live. Une magistrate qui traite l'affaire tombe dessus. Lui, il avait parlé de moi. Du coup, elle a fait un peu le lien, tu sais, les liens rouges, etc.
Ouais.
Mais c'est parce que je suis connue. Et du coup, je culpabilisais pour les femmes qui ne sont pas écoutées.
Tu avais l'impression d'avoir été peut-être privilégiée, même dans ton malheur, sans renier ce qui t'est arrivé, par rapport à d'autres femmes qui, effectivement, n'ont pas cet écho que toi, tu as pu avoir.
Exactement. C'est plein de petits sentiments qui coexistent, qui sont très compliqués à gérer.
Bon, Magla est avec nous jusque 23h. Magla, pour aller sur une actualité plus réjouissante, c'est comme Danse avec les Stars.
Oui.
Donc ta participation à l'un des shows les plus importants du monde, parce que c'est un show qui n'existe pas uniquement chez nous, qui vient des États-Unis. Comment Déjà, toi, est-ce que tu as été approché? Enfin, j'imagine que oui. Comment ça s'est... La mise en place s'est faite? Est-ce que tu as toujours... On parlait, tu sais, tout à l'heure, d'avoir envie de faire d'autres choses, de sortir de Twitch, donc d'aller sur YouTube. Et puis, tu as fait d'autres choses. Hein, ces dernières années, il n'y a pas que Twitch et YouTube. Mais est-ce que la télévision, c'est quelque chose que tu avais en tête? Est-ce que c'est arrivé à un moment... C'est juste le bon timing? Comment ça s'est passé?
Franchement, c'était fou. Déjà, Danser avec les stars, il faut savoir que j'avais toujours un peu vu et j'ai toujours trouvé ça très beau. Moi, je viens d'une famille où ma maman était danseuse classique. Ouais. Donc, j'ai grandi entourée de danse, on regardait des spectacles. On regardait une émission qui s'appelait Dance Crew USA. C'était des spectacles de hip-hop avec des groupes et okay. tout à l'époque. C'était des battles. Moi, j'adorais. C'est le spectacle et tout, c'est trop bien. Donc, j'essayais chez moi, c'était ridicule. Et chez moi, je danse, etc. J'adore la danse.
Mais t'as fait une formation de danseuse quand t'étais petite ou pas du tout?
Du jamais... tout. Okay, j'ai eu des pointes parce que ma maman donnait des cours. Ouais. En fait, tu sais, je suis une touche à tout, mais j'étais très timide. Donc, je faisais un peu de danse. Puis, je me rendais compte qu'il fallait danser devant des gens. Donc, je me disais, non, c'est pas pour moi. Donc, je faisais ça chez moi toute seule, mais j'ai pas fait grand chose. Et Danser avec les stars, du coup, j'avais un petit peu regardé par-ci par-là avec le travail, j'avais pas forcément le temps. Cette année, du coup, j'ai eu un événement personnel qui a été très compliqué, j'avais besoin de me changer les idées et je tombe sur Danser avec les stars. Et je me dis, bon, bah, je vais regarder un peu ce que ça donne, ça a l'air cool. Je regarde, je suis happée par le truc et ça me fait un peu changer les idées. Je me dis, putain, c'est bien quand même. 6 mois plus tard, je reçois un mail pour me proposer de participer avec Danser avec les stars. Je me dis, c'est pas possible. Genre, j'ai regardé pour la première fois cette année, pour de vrai, ça m'a vraiment touché et marqué, ça m'a sorti d'un truc. Ça peut pas être moi. Je me dis, mais je suis pas une star, de toute façon, ils veulent pas de moi, c'est un scam. Et je me rappelle avoir dit à mon agente Karen, c'est un scam, mais appelle au cas où quand même, mais je suis pas sûre.
Donc t'avais quand même envie, ça tentait dès le début.
J'avais trop envie. Okay. Mais en fait, je m'étais dit en plus, s'il y a une émission que je veux faire à la télé, c'est Danse avec les stars. Ou L'amour est dans le pré, parce que je regarde aussi, mais c'est différent, je suis pas agricultrice et je suis très peu prétendante.
Est-ce que tu serais prête à devenir agricultrice pour...
Non, je pense pas.
Non, ok, d'accord.
J'y ai pensé, je me suis dit, est-ce que élever des petites chèvres, j'adorerais.
Mais... C'est peut-être ça, le sens de la vie, tu sais,
c'est ça, mais c'est tu sais que ça, pour moi, quand je finirai, je serai au milieu d'une forêt avec une maison à la Ex Machina magnifique et
très
des
bon
petites
film.
Chèvres. J'adore ce film.
Ouais. Avec Oscar Isaac, absolument.
Vraiment très beau.
Ouais. Mais du coup, oui, pardon, pour revenir sur le sujet, excuse-moi, je suis parti.
C'est moi, je pars partout, n'hésite pas à me faire focus.
Non, très bien. Donc, ouais, donc t'avais envie de le faire en tout cas, mais tu ne savais pas si c'était vrai.
C'est ça, et je me dis, mais j'ai trop envie. S'il y a une émission, c'est celle-là, j'adore, et j'ai toujours voulu danser. Je trouve ça trop beau, j'ai toujours voulu apprendre à chanter et danser juste pour moi, mon plaisir personnel. Donc déjà, la danse, on pourrait le cocher. Et du coup, bah, on le fait, on passe le casting, c'est génial. Et là, je rêve, en fait, je me dis, mais je veux être prise. Donc j'y pense tous les soirs, je manifeste à mort, je me dis,
c'est marrant, ok.
Ouais, j'étais trop contente, et puis ça change, en fait. Je sais que souvent, on a cette tendance à opposer télévision et Internet. Ouais. Moi, j'aime bien dire qu'il y a une passerelle entre les deux. Je pense que sur Internet, on fait un peu ce qu'on veut, on a quand même nos codes à nous. Avec l'audiovisuel, mais on n'est pas si loin. En fait, on a de l'audiovisuel, de la production, de la réalisation, juste on n'a pas les mêmes codes. Mais il y a des émissions pour moi qui peuvent se rapprocher. Il y a eu Dalcy, par exemple, de Michou. Je trouve que c'était très bien fait, c'était chouette. Ouais. Ça a été très bien accueilli.
C'est Danse avec les stars d'Internet.
Exactement.
C'est ça,
Et j'ai trouvé ça très très cool. Bah, j'avais regardé Danser avec les stars d'Internet et j'avais trouvé ça génial. Je pense que ça donnait envie aux gens aussi de regarder Danser avec les stars. Et je pense qu'on peut se nourrir les uns et les autres si on apprend à cohabiter intelligemment. Donc moi, je trouve ça très très bien.
Est-ce que il n'y a pas une crainte d'être aussi... Parfois, c'est un public qui ne te connaît pas. Parce que mine de rien, alors je ne vais pas dire que sur Internet, tout le monde te connaît, mais pas loin en tout cas, tu sais, vu les chiffres que tu fais, il y a évidemment des gens parfois qui tombent sur tes vidéos qui ne te connaissent pas, mais il y a aussi une énorme majorité, je pense, de personnes qui ont la notification, qui vont sur ta chaîne YouTube quand tu sors une vidéo, ou qui te suivent en live. Est-ce que là, le fait, tu sais, d'être dans un environnement que tu ne contrôles pas, en tout cas que tu contrôles moins, est-ce qu'il n'y a pas une crainte par rapport à ça, face à un public qui peut ne pas te connaître, avoir du mal à t'appréhender?
Évidemment, mais tu vois, c'est toujours se lâcher prise, de se dire, bah, de toute façon, il y a vraiment ce truc de ce que je ne contrôle pas, je ne devrais pas m'angoisser pour. C'est un peu mon truc tous les jours, je me dis, si je ne peux pas le contrôler, je ne dois pas faire d'angoisse dessus. Ça ne me sert à rien de façon, allons-y, moi j'aime la paix de base, je suis quelqu'un de très angoissé de base. Comme la timidité, etc., peut-être ça va de pair. Ouais. Mais du coup, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Et tout le jour, de toute façon, j'aspire à devenir une meilleure personne pour moi et pour les autres. Donc oui, il y a cette angoisse, parce que je pense que ce sont des audiences qui ne consomment pas forcément toujours Internet. Ouais. Mais le programme est assez bienveillant. Et les équipes pour côtoyer tous les jours, ils sont ultra bienveillants aussi. Leur but, c'est de montrer de belles choses, de ce qui se passe. On est une famille et ça se ressent beaucoup entre candidats. Donc je ne suis pas forcément inquiète. Je sais qu'ils vont faire les choses bien, et si on m'aime bien, tant mieux. Si on m'aime pas, tant pis. Je sais que je peux avoir un profil très atypique, peut-être par rapport à des gens qu'ils ont l'habitude de voir. Et j'espère les amener un peu dans mon univers, et s'ils aiment pas, c'est pas grave, de toute façon.
Comment toi, qui étais une jeune fille timide, ce que tu viens de dire, très réservé. Comment tu arrives à vaincre ça? Comment tu as réussi à évoluer? Parce qu'aujourd'hui, tu es exposé, tu as défilé. Donc j'imagine le courage qu'il faut aussi pour s'exposer demain à la télévision, sur Twitch. Bref, comment tu as réussi à combattre ça?
Franchement, ça a été des combats tous les jours. Quand j'étais, c'était surtout ado, j'avais fait, je pense, truc où j'osais pas dire non, je voulais faire les choses dans le sens des gens, etc. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que je me connaissais pas et je savais pas qui j'étais. Et que ma timidité m'empêchait de faire des choses. Et c'est facile de dire, bon, bah, t'es timide, essaye d'aller parler aux gens. C'est super dur. Mais je voulais plus être timide. Donc, je me mettais des petits challenges. J'ai travaillé en tant que commerciale aussi. Faut y aller. J'étais commerciale itinérante en stage.
Ah,
donc,
c'est terrible quand on est timide.
Ah ouais, c'est super dur. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Le streaming aussi. Quand tu parles à 15 personnes, tu dis « Ah, mais en fait, ça va. » Puis à 1000, 2000, des fois 10 000, tu dis « Mais en fait, c'est OK. » Et puis le fait que des gens t'apportent autant d'amour et te disent « Mais en fait, ta personnalité, elle est cool. » Et aussi les haters. C'est bête, mais te dire « Bon, bah en fait, je prends beaucoup de critiques. Je suis toujours vivante. Je suis toujours debout.
Ouais. »
Et au final, c'est OK. Donc, ouais, t'as ce truc où tu te crées des murs et t'apprends aussi à te connaître. Ça prend du temps. J'ai pris une dizaine d'années, je pense, pour être beaucoup moins timide de toute façon. Et c'est aussi un message pour dire, vous serez un jour moins timide, c'est pas grave. Et si vous êtes timide, c'est pas grave non plus. Y a pas de honte ou quoi que ce soit. Et il y a ce truc de la honte aussi. Le fait de se dire, mais en fait, j'ai honte de rien. J'ai fait tellement l'idiote sur mes lives. Ça aussi. Des fois, en fait, j'ai un petit caractère un peu hyperactif où j'aime bien faire des bêtises, j'aime bien rigoler avec les gens. Et le fait de le faire et que ça fasse rire les gens, faire un peu le clown, et que bah, tu te dis, bah, t'es pas mort de la honte, tu peux le faire. Aujourd'hui, j'ai vraiment très peu de barrières. Si j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Et surtout, j'ai envie de vivre les choses. Je trouve que la vie, elle passe vite.
Mais t'as pas envie d'être tétanisé à cause de la peur d'être ridicule, alors qu'il y a de grandes chances que ça, que rien ne se passe.
Tu seras ridicule et alors, c'est pas grave, ose. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est oser. C'est pas grave, tu seras ridicule, des gens vont adorer, des gens vont pas aimer. Même toi, en fait, dans la vie de tous les jours, il y a des gens que tu n'adhères pas. Pas grave.
Oui, j'avais vu une fois une phrase un peu cliché comme ça sur Internet, mais qui disait « Arrête de vouloir être aimé par tout le monde, toi-même, tu n'aimes pas tout le monde. »
Mais
en fait.
Carrément.
C'est vrai, que c'est vrai, parfois on a un peu cette peur de ne pas être aimé par des gens qu'on ne connaît pas, alors que c'est pas très grave au final.
C'est pas grave, ces gens peut-être que bah, tu les mets pas dans ton entourage ou dans ta communauté, c'est pas grave en fait.
Et c'est ok. Je propose qu'on écoute un morceau, Magla, un morceau, je sais pas si tu danseras dessus. Oh. On danse avec les stars, mais c'est un morceau, je pense, sur lequel on pourrait danser. C'est une artiste qui s'appelle Espagnol, qui est espagnol, pardon, qui c'est pas Rosalia, mais qui s'appelle Judeline. On va écouter son morceau qui s'appelle Tiempo Pasa. Désolé pour l'accent, j'ai fait allemand LV1.
Ça va, franchement, ça va.
C'est... Personne n'est parfait.
Tiempo Pasa.
Ah, toi, tu parles espagnol, toi?
J'ai fait semblant.
Bon, écoute, on va écouter son morceau, Judeline et De La Fuente, tout de suite, dans La Régulière.
El tiempo va a pasar, no va a retroceder. Pensar en este momento y en ser joven otra vez. ¿Qué fue de aquel lugar? Los chicos que besé. No quiero que pase el tiempo si voy a querer volver. Como si estuviera muerto. Deja propina y nunca lleva suelto. Yo que no contesto a mensajes texto y a las llamadas ni respondería. No es personal, no te rayes, no te rayes. Ya siempre va a haber cosas que nunca se olvidan. Un palo por la espalda, tu boca con la mía. Oh, inshallah, un momento. Yo te agradezco tu opinión tan sincera. Hacer lo que yo quiera.
No puedo hacer nada porque el tiempo va a pasar. Voy a echar de menos el brillo de tu
C'était Judeline et De La Fuente avec le morceau Tiempo Pasa. Ça va la prononciation ?
Ça a été très bien et ça va aller dans ma playlist.
C'est validé par Magla. Parfait, on continue.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Est-ce que tu dirais comme ça que tu écoutes beaucoup de musique, toi, au quotidien, pour te motiver, pour, je sais pas, pour t'inspirer, peut-être même dans tes concepts ?
Du matin au soir.
Ok.
En fait, je me réveille de la musique, je me couche avec de la musique, j'ai toutes mes playlists qui sont ultra rangées. La musique est super importante pour moi.
Est-ce que tu as des artistes comme ça que tu écoutes vraiment tout le temps en ce moment ?
Alors là, bien sûr. Alors, il y a Billie Eilish.
Billie Eilish.
J'écoute énormément son dernier album, je l'aime beaucoup. Joji.
Ah, bon, on en parle un peu après, ouais, tout à fait. Ouais.
J'adore Joji.
Mais qui est aussi un profil intéressant, parce que c'est quelqu'un qui vient d'Internet aussi.
Il a créé le Harlem Shake.
Exactement.
C'est fou.
C'est complètement fou. C'est complètement fou.
Et c'est génial qu'il ait pu faire la bascule.
La bascule, ouais, tout à fait. Et maintenant, c'est un artiste respecté complètement, ouais.
Ah non, trop bien. Et plein de petits artistes aussi un peu indépendants, genre Aaron, qui est super talent, super artiste, que j'adore. Donc, ouais, non, plein d'artistes que j'adore découvrir, ouais.
Bon, je propose qu'on l'a dit, tu viens d'Internet, t'es une enfant d'Internet. Et aujourd'hui, tu vas être sur TF1, Danse avec les Stars. Et je voulais qu'on parle peut-être de quelques personnes comme ça qui sont, qu'on a vu émerger sur Internet et qui ont aussi fait un pas vers le mainstream. Et je voulais, tu interviens évidemment si t'as envie d'intervenir. Et je voulais commencer avec une créatrice de contenu, Juju Fitcats, qui au départ est une créatrice YouTube fitness, si je ne dis pas de bêtises, très personnelle. Elle parle de sport, de corps, de discipline, mais aussi de doute, de motivation, de pression sociale. Un discours très Internet, direct, sans filtre, sans décor.
Les amis, à nouveau, comme toujours, je suis heureuse de vous retrouver sur ce format qui est Balance ton frigo, votre format préf et le dernier épisode de l'année. Évidemment, vous inquiétez pas, la série ne va pas s'arrêter de sitôt.
Et puis, petit à petit, elle sort de sa niche, elle devient chroniqueuse, animatrice, participe à des émissions télé, jusqu'à Danse avec les Stars, elle aussi, car ce sera une autre candidate cette année.
Ouais, ouais, carrément.
Et mais elle, alors, pour le coup, elle a vraiment déjà fait plusieurs expériences en télé. C'est assez fou. Mais je savais même pas qu'il y en avait autant. Parce qu'elle a fait Fort Boyard à 3 reprises, bon, en tant que candidate.
Ah, oui.
Objectif Top Chef. Les Traîtres, qu'elle remporte en 2023. Le Grand Concours sur TF1. Le Meilleur Pâtissier Spécial Célébrité. Vendredi Tout est Permis en tant qu'invité. Et ça, c'était en tant que candidate, donc. Mais elle a aussi animé l'After de la France, un incroyable talent. Les Traîtres, Révélation. Living Santé sur M6 et 99 à battre avec Eric Antoine, toujours sur M6. C'est devenu une vraie femme de télé. Enfin, c'est intéressant quand même, elle a réussi.
Mais je savais pas qu'elle avait fait tout ça, mais je découvre.
Alors j'espère que Wikipédia ne ment pas. Mais,
on va lui faire confiance.
Mais en tout cas, tout est listé. J'étais assez impressionné. C'est intéressant parce que tu disais justement que toi, tu voyais pas forcément de barrière entre Internet et la télé. On a souvent opposé ça. On se souvient même parfois d'interviews compliquées, dans le passé, entre créateurs de contenu et animateurs de télévision. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, le lien, il est plus renforcé que dans le passé, que ça va mieux, que même les gens peut-être vous prennent un peu moins de haut parce que ça a existé aussi à un moment.
Malheureusement. Alors, je pense qu'il y a toujours. Hein. J'ai eu des interviews où on me prenait de haut. Si on te prend un peu comme un bébé, en mode alors c'est quoi le jeu vidéo ? Enfin, c'est un peu compliqué. Des fois, tu as des visions qui sont très arriérées. Tu vois les petits pics, donc tu restes bien élevé.
Ouais.
Mais j'ose espérer qu'il y a des passerelles qui sont et que la télé comprend de plus en plus que, bah oui, Internet, en fait, commence à prendre de la place et est importante. Et bah oui, il va falloir commencer à s'adapter. Donc, puis, ça, j'ose l'espérer.
Puis quand je vois certains de divertissement que tu produis, que vous produisez, enfin, certains d'entre vous sont vraiment devenus des vrais entertainers. Je pense à un format qui met un peu tout le monde d'accord, qui est l'imposteur de Squeezie.
Carrément.
Quand je vois Squeezie, j'ai l'impression de voir un excellent animateur télé, en fait, avec des codes d'Internet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il maîtrise ça aujourd'hui. C'est pas du tout quelqu'un qui est là juste parce qu'il est connu sur Internet. Il y a vraiment une technique qu'il a, quoi, et qu'il a vraiment maîtrisé aujourd'hui, je trouve.
Bah, Squeezie, il a une équipe qui est incroyable. Ils sont tous adorables, en plus. Il fait des concepts merveilleux. Et en fait, j'ai envie de dire, on n'a rien à envier aussi. C'est différent.
Ouais, exactement.
Il a ses concepts. On s'amuse. Enfin, les gens regardent ce qu'ils ont envie de regarder. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens regardent énormément Internet, et on est fiers de ça.
Ouais, ouais,
on est content, on a évolué, on n'est plus juste devant dans notre chambre à faire du concept, et c'est cool. Mais maintenant, on peut être réalisateur, on peut être producteur,
bien sûr.
On a des moyens, donc on s'éclate.
Et c'est puis tous ces gros concepts aussi, maintenant, se regardent sur l'objet télévisé. Même si ça part de YouTube, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de personnes dans les statistiques qui regardent YouTube sur leur télévision, avec des formats aussi qui sont de plus en plus longs, donc qui se prêtent aussi à une soirée entre amis à la télévision, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui a changé.
Je pense qu'on est aussi, en tout cas moi pour ma part, moi j'ai grandi avec la télévision, j'ai rêvé devant la télévision, les séries, les films, etc. Mais aussi les jeux télé. Donc en grandissant et en faisant ça, quand je commence à être streameuse, je me dis ah mais en fait plus tard tu peux faire ça aussi. J'ai mis de l'argent de côté et je peux aussi créer mes jeux.
Ouais.
Et c'est mon terrain de jeu. Et en fait je pense que t'es un peu petit, tu te dis mais moi aussi je veux faire ça, j'ai envie de m'éclater.
Ouais.
C'est pas pour faire concurrence, mais moi j'ai mes codes, mes trucs, j'ai pas envie d'être bridée, parce qu'on sait qu'il y a des codes aussi télévisuels.
Bien sûr, oui, tout à fait.
C'est un peu compliqué. Et t'es en mode, bah c'est chez moi,
ouais.
Je m'éclate, venez si vous adhérez et on s'éclate.
Autre exemple, autre trajectoire, Amixem. Au départ, Amixem, c'est YouTube, évidemment, des concepts, une bande de potes, de l'humour, du divertissement, des vidéos calibrées pour Internet.
Je suis très content et excité à l'idée de ce nouvel unboxing. Toujours la chaîne du consommateur, la chaîne pour vous informer. La prod a sélectionné plein d'objets qui sont des objets du quotidien que vous connaissez tous, mais ils ont une subtilité, c'est qu'ils sont de luxe.
Oh.
C'est-à-dire, prends un exemple, je sais même pas si ça va être ça ou pas, une souris ergonomique Hermès.
Moi, je suis un grand fan des concepts d'Amixem.
J'adore Amixem.
Ce divertissement pur jus, voilà, j'y vais. Voilà,
mais il est ultra varié. Hein.
Il est ultra varié.
Il fait plein de choses différentes.
Et en fait, j'ai découvert, parce que je regarde un peu moins la télévision, je l'avoue, qu'en 2023, il a lancé le défi spécial dans l'émission Lego Master diffusée sur M6.
Oui, c'est vrai.
Et oui. Il a plus ou moins co-animé, en tout cas, il faisait partie du jury de l'émission. Et en fait ça fait suite aux diverses vidéos d'assemblage de Lego sur sa chaîne, qu'il considère comme des accidents totaux, car il ne s'attendait pas à un tel succès. Il avait commencé à assembler une énorme boîte de Lego du château Poudlard d'Harry Potter, et enchaîné avec le Faucon Millennium de Star Wars ou encore le Titanic. Et c'est comme ça que la télévision l'a appelé pour collaborer, lui aussi, aux côtés de Eric Antoine sur M6. Donc voilà. Lui aussi a fait un pas vers la télévision. Et puis, il y a quand même une autre créatrice, là on va aller outre-Atlantique, c'est Charlie D'Amelio. Est-ce que tu la connais?
Ah mais elle a explosé.
Évidemment, moi je l'ai découvert en préparant l'émission parce que je suis un boomer, mais toi évidemment tu la connais. Et elle, c'est intéressant parce qu'elle a commencé sur TikTok, ouais, avec des vidéos de danse. Et là aujourd'hui, donc elle a été appelée pour faire Danse avec les Stars, qu'elle a remporté. Et je crois qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est la créatrice de contenu la plus suivie sur Internet. Elle a 41 millions de followers sur Instagram et quasiment 156 millions sur TikTok. Et là, elle part de TikTok pour devenir une vraie célébrité, en tout cas mainstream. Elle a remporté Danse avec les Stars.
Voilà. C'est fou, je trouve, le rayonnement qu'elle a eu. Moi, je ne connaissais pas forcément.
Okay.
J'ai découvert après, et j'ai découvert tout l'univers, et qu'elle partait de TikTok, etc. C'est comme Bella Porsche.
Ouais,
incroyable.
Elle, je la connais. Puisqu'on parle, elle a gagné Danse avec les Stars, est-ce que le but, l'objectif, c'est de gagner?
Bah évidemment, j'ai envie.
Tu vas pas pour participer?
Non, je viens parce que j'ai envie de gagner et même j'ai envie d'amener Adrien, du coup mon coéquipier,
oui.
J'ai envie de l'amener en finale et j'ai envie qu'on ait notre, parce que en gros quand tu gagnes, t'as ton portrait dans les couloirs.
C'est Adrien Cabi, hein, c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Ouais.
Et j'ai envie qu'on gagne. Alors du coup je me donnerai à 300% si
on
gagne pas.
C'est le côté tryhard comme dans les jeux vidéo.
Ouais, je pense. Ouais. En fait j'ai un petit côté challenge, tryhard, compétition, mais avec moi. Okay. Du coup j'ai pas envie d'écraser les autres pour briller. Moi, si quelqu'un d'autre gagne, tant mieux, je suis contente que chacun réalise son rêve. Par contre, j'ai aussi envie de gagner.
Ouais.
Donc, je vais me donner à 300%, donc je vais m'entraîner moi-même, mais je veux rendre fier Adrien, mes amis, tout le monde.
Est-ce que tu sens que la famille, tu sais, qui, même si j'imagine qu'ils sont derrière toi, que là, ils sont, comme c'est quelque chose de mainstream, qui parfois, peut-être, tu sais, quand tu vas dans le mainstream, moi, par exemple, depuis que je suis ici, jamais ma tante m'a envoyé autant de messages. Tu sais,
quand t'es sur...
évidemment, avant, elle n'en avait rien à faire de ce que je faisais. Est-ce que toi, tu sens que quand tu touches, pas quand tu touches, mais quand t'es à fond dans le mainstream comme ça, que t'as des messages de gens de ta famille qui sont un peu plus intéressés par ce que tu fais que quand tu fais des choses sur Internet?
Bah, ayant un papa qui est dans le jeu vidéo et Internet.
Oui, donc lui, il comprend.
Il comprend. La dernière fois, je l'ai vu, il m'a parlé du GP Explorer. Il me dit « Ah, c'était trop bien quand t'as fait ça, quand t'as spin là dans Samsung, c'était rigolo. » Donc en vrai, mon père, il se tient dans l'actualité. Mes amis, bah, ils suivent depuis longtemps. J'en ai plein qui travaillent avec moi. Je fais travailler avec mes amis. C'est très bizarre de dire « Je fais travailler mes amis », mais je fais croquer les amis,
oui,
en fait.
Oui, oui,
genre, c'est, mes amis, c'est ma famille. Du coup, je les fais croquer, donc ils suivent. Par contre, ouais, ils sont ultra fiers. J'ai mes meilleurs amis qui viennent de Marseille pour voir justement sur le Prime. Ils sont trop fiers de moi, ils sont trop contents. Là, ils me disent « Mais attends, on va te voir à la télé. » Ils sont limite plus hype que moi.
Okay.
C'est trop marrant, parce que moi, je ne me rends pas compte encore.
Ce sera au moment du Prime que tu le réaliseras.
En fait, je pense que je n'ai pas envie de me rendre compte, parce que je me dis « Si je commence à stresser 2 semaines avant, je vais ruiner mes entraînements. »
Ok. Bon, Magla est avec nous jusqu'à 23h et on continue à parler de son actualité. Et moi, j'ai envie de te poser une question. La question, elle est large, mais c'est quoi la suite? Parce qu'on a le sentiment, comme tu disais, tout à l'heure un peu en rigolant, mais la vie, elle n'a pas de sens, en fait. Il y a des choses qui se passent que tu n'avais même pas imaginées, ce n'est même pas des cases que tu espérais cocher. Et puis, ça se passe, et ça se passe bien. Est-ce que tu as des rêves clairs, des objectifs clairs, ou c'est juste tu te laisses porter par ce qui peut t'arriver?
Franchement, bah, je réalise mon rêve tous les jours, déjà. Donc, si ça s'arrête demain...
Est-ce que tu t'imagines faire du cinéma, sortir un album?
Waouh. Alors, oui et non. Le côté du cinéma, par exemple, c'est toujours un petit peu compliqué parce que t'as pas envie de prendre la place de quelqu'un.
Ouais.
J'ai pas fait de théâtre, j'ai pas fait d'études là-dessus, etc. Donc, faire un caméo, ou pas de la figuration, mais tu vois, un petit rôle à côté, serait génial. Le cinéma, c'est un rêve. Donc, si, imaginons, demain, on propose un rôle, je veux faire du matin au soir du théâtre, de l'acting, etc. Je veux avoir cette place parce que je suis douée et pas juste parce que je suis magla. Je okay. veux pas faire des choses par star talent, je trouve pas ça bien de base.
Ouais, ouais.
Mais cinéma, c'est pas encore...
C'est pas le moment.
Pas le moment. J'ai trop de choses à faire. J'ai pas assez d'heures de sommeil. Par contre, j'ai des projets là qui arrivent normalement d'ici la fin du mois. Je vais sortir un truc pour annoncer un nouveau projet qui est tout nouveau pour moi. Et pareil, dans la première moitié de l'année, il y aura quelque chose de nouveau qui arrive.
Okay.
Donc ça, c'est des nouveaux petits challenges. Et après, le futur me dira où on va. Pour le moment, je touche du bois. Je pensais que ça s'arrêterait avant. Donc,
vraiment ?
Ouais, vraiment. Je me disais, bon, bah, c'est cool. En fait, à chaque fois que je passe un palier, je me dis, ok, c'est au top du truc, c'est déjà incroyable. C'est fou de faire ça, c'est génial. Je remercie tous les jours là où je suis. Je me dis, c'est trop bien. Je me dis, bon, bah, c'est sûrement la dernière fois, j'ai atteint mon prime, quoi.
Mmh.
Danser avec les stars, je me dis, mais c'est une folie. C'est quoi après ? Genre, ouais, c'est quoi ça ? Donc, on verra où ça va. Moi, j'ai beaucoup d'ambition aussi. J'aime bien aller encore plus. Mais on verra.
Est-ce que, tu sais, j'en parlais ici, on avait reçu Michou notamment pour le terminal, et il y a aussi maintenant, tu sais, j'ai l'impression que tu connais ça mieux que moi, mais qu'il y a presque deux YouTube, c'est qu'il y a un YouTube des énormes stars de YouTube dont tu fais partie avec parfois, même si tu ne fais pas que ça, mais avec parfois des énormes productions, on parlait du terminal ou de la vidéo du train, de Squeezie, etc. Et c'est pour citer les plus connus peut-être l'année dernière. Et puis aussi un YouTube parfois qui est peut-être plus modeste parce qu'on parle de créateurs qui n'ont pas les mêmes moyens, peut-être juste pas les mêmes envies. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, YouTube, c'est davantage une plateforme pour les gros noms, en tout cas, que finalement les énormes vues, finalement, elles sont quand même accaparées par une caste un peu de créateurs de contenu qui se connaissent, qui collaborent entre eux. Est-ce que c'est devenu plus compliqué de percer sur YouTube qu'il y a 10 ans, par exemple, selon toi ?
Alors, moi, je ne suis pas là depuis super longtemps sur YouTube, donc je suis
arrivée...
C'est
vrai, mais j'imagine que tu observais quand même cette plateforme.
Ouais, et encore, ça va te paraître peut-être étonnant, mais je consomme très peu de YouTube.
Okay.
Je regardais par-ci, par-là, mais de base, moi, je regardais du YouTube américain.
D'accord.
Du let's play américain de jeux vidéo. Donc vraiment rien à voir. Moi je suis très cinéphile de base, donc je regarde beaucoup de séries, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est très dur de s'insérer dans ce qui existe aujourd'hui parce que c'est de la super grosse production et ça a ses avantages comme ses désavantages. Moi j'aime bien parce qu'en tant que personne, je me dis je mets les moyens et j'ai la chance d'avoir les moyens pour pouvoir le faire, d'avoir des sponsors, etc. Mais je pense que quand t'es un tout petit créateur ou petite créatrice, pouvoir s'insérer là-dedans, il faut réussir à se diversifier, peut-être trouver sa niche. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir d'autres réseaux à côté. Le fait d'avoir un TikTok ou un Insta avec des Reels, ça te permet des fois de mettre des extraits et de les bombarder. Et des fois, tu sais pas pourquoi, t'as un extrait qui va percer et les gens vont se dire « Ah cool, je vais aller voir cette vidéo
YouTube. » C'est ta meilleure promotion en fait pour ta chaîne.
Moi je pense qu'il faut pas se cautionner à une seule plateforme. Aujourd'hui, on est aussi dans l'instantanéité. On veut tout de suite, les gens ils veulent tout maintenant. Donc pour te découvrir, là où il y a une pléthore de créateurs et de créatrices, et notamment avec des énormes moyens, parfois je pense qu'il faut réussir à se diversifier ailleurs. Et je pense que les gens et les consommateurs doivent être plus curieux. Ne pas hésiter à aller chercher dans l'algo, à aller forcer un peu l'algo en disant « Bah tiens, je cherche une vidéo », cliquer sur les gens. Parce que de base, c'est comme quand tu choisis une pizza. Tu veux toujours la 4 fromages. Tu dis non, je vais pas changer, j'ai envie de manger ma 4 fromages ce soir.
Je suis moins fort 4 fromages, mais après,
c'est chaque... toi la pizza ?
Moi, je suis classique, un margarita, voilà.
Margarita.
Voilà,
mais est-ce que des fois, tu dis, ok, imaginons que tu as le droit à une pizza par mois, tu vas pas changer ta margarita parce que t'aimes ta margarita.
C'est vrai.
Et je pense que c'est un peu la même façon de consommer YouTube ou même Twitch.
Oui,
t'as ton confort. Et ça fait peur d'aller chercher ailleurs. Tu dis, ah, mais attends, mais 30 minutes là, je veux les donner à un tel ou un tel.
Bien sûr, ouais, ouais.
Et je pense qu'il faut pas avoir peur de le faire. Ne pas hésiter à se jeter, se dire, ok, qu'est-ce que ça donne peut-être, t'aimeras pas. Et donner de la force aussi aux gens, pas hésiter à partager les contenus que vous aimez, c'est important je pense.
Magla, tu as parlé d'une artiste tout à l'heure que tu écoutais beaucoup, c'est Billie Eilish.
Ouais.
Je pense qu'on écoute un morceau.
Ah,
Billie Eilish, un classique, Bad Guy, sur lequel on peut danser Bad Guy.
Curieuse de voir quelle danse on pourrait mettre dessus.
J'attends de voir ça. Essaye de placer ça à TF1. Bon, on écoute Billie Eilish, Bad Guy.
Just always so puff, guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Billie Eilish avec un morceau qui est désormais un classique, Bad Guy.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et Magla, tu en parlais tout à l'heure, tu l'as cité. En quoi elle est importante, pour, si tant est qu'elle le soit, mais je crois qu'elle l'est. En quoi c'est une artiste qui est importante pour toi, Billie Eilish?
Alors déjà, la musique, c'est important de base. Et ouais. Moi, j'aime quand on me fait ressentir des émotions, qu'on écrit bien. Même la direction artistique. Moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les clips.
Ouais.
Et les clips de Billie Eilish, je les trouve ultra intéressants. Il y a toujours une symbolique derrière. Je sais qu'elle fait ses cascades elle-même également.
Ouais.
Elle se donne. En fait, j'aime l'art.
Et là, toi qui es cinéphile, parce que je suis allé voir Avatar 3 il n'y a pas longtemps, et dans... Avant le film, dans les bandes annonces, il y a le concert en 3D filmé par James Cameron. Je sais pas si t'as entendu ça.
C'est
ça a l'air incroyable, ouais.
Vraiment. Déjà, James Cameron qui se met là-dessus.
Ouais, c'est génial.
Incroyable.
Ouais, complètement.
Donc, je veux voir ce que j'ai pas vu encore. Mais ouais, non, les musiques me touchent. Il y a, en fait, c'est des sujets qui me parlent et qui font des fois réfléchir, qui me font réfléchir à la vie, etc. Et même la sonorité. Enfin, c'est beau. J'aime beaucoup.
Mais par contre, tu es venu et tu as conseillé un artiste. C'est l'artiste Joji. Un extrait du morceau No Fun, qui je crois est sur son projet de 2017, quelque chose comme ça. C'est le moment où je découvre Joji, qui est quelqu'un qui vient d'Internet, comme toi, et qui a réussi à devenir un artiste respecté. Quand est-ce que tu le découvres, toi, Joji, et pourquoi tu l'as recommandé aujourd'hui?
Alors, je l'avais découvert une première fois, il y a des années, avec Slow Dancing in the Dark, qui est dans ses premières musiques.
Oui,
je crois que ça l'a pas mal fait péter avec Kim Savas.
Exactement, tout à fait.
Et j'avais déjà découvert ça, et je me suis dit, mais c'est incroyable la sonorité, ça me touche beaucoup, ça mélange pas mal de genres différents. Et le côté, c'est vraiment de la playlist très triste, un peu la dépression et tout. Moi, j'adore ce genre de musique.
Oui, c'est ce qu'on disait, tu me disais ça en antenne. T'aimes bien les morceaux tristes?
Ouais, j'adore ça.
Est-ce que quand tu vas pas bien, t'es du genre à mettre... des morceaux encore plus tristes pour aller encore plus mal.
Oui, c'est comme je suis là, ça que je regrette. Okay. Je suis là, je plonge, mais je suis vraiment une merde. Non, Joji, du coup, c'est vraiment c'est l'amour torturé, la confiance en soi. Et en plus, il sort un album là, qui va arriver. Et ça a été toute mon année dernière, Joji.
Okay.
Ça m'a beaucoup... En fait, je suis retombée dedans. Je me suis dit, mais c'est vraiment un artiste complet, il est trop fort.
Ouais.
Et même la direction artistique qu'il a, il y avait le clip Yeah Right, qui est un clip très particulier, où il parle du fait qu'il est un peu seul, qu'il n'a pas forcément de monde autour, qu'il vient d'Internet, qu'il a la fame. Le clip est lunaire, il est génial. Et là, il ressort un album et du coup, je réapprends à tout redécouvrir et je suis encore dedans au final.
Et c'est aussi une preuve qu'on peut avoir plusieurs étapes dans sa carrière en fait, parce que lui a été youtubeur et puis aujourd'hui, il chante. Enfin, c'est aussi, je trouve, quelque chose qui est peut-être un peu moins commun chez nous, tu sais, en France en tout cas, mais qui peut-être arrive. Je pense à Mister V, évidemment, qui lui aussi est en train d'avoir plusieurs vies.
Ouais, même Théodore.
Même Théodore, trop, absolument, trop cool. Qui est un très bon exemple aussi. Enfin, c'est aussi une manière de prouver qu'on peut faire plusieurs choses.
Ouais, moi, j'aime pas être cautionné à une case.
Ouais.
En fait, si t'as envie de faire de la musique et que tu le fais bien en plus, mais fais-le, éclate-toi, c'est trop bien. En fait, moi, j'ai envie que les métiers artistiques, ils explosent encore plus. La créativité, c'est trop beau.
Si on était à l'école, là, et qu'on te demandait d'écrire ton métier sur une feuille, tu dirais quoi ?
Bah déjà, vu qu'à l'époque, streamer ou créateur de contenu n'existait pas, je ne mettrais pas ça.
Oui, c'est
parce que c'est vrai que ça n'existait pas à l'époque.
Non.
Je ne savais pas ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours eu des soucis avec ça. J'ai du mal avec l'autorité, de base.
Okay.
Et avec le système scolaire, pareil.
Tu étais très bonne, tu étais plutôt très bonne élève à l'école, mais tu n'aimais pas à l'école, quoi.
Ouais, exactement. Okay. En fait, moi, je m'embêtais très, très vite et j'aime pas qu'on me donne des ordres. J'aime aller à mon rythme et j'allais vite. Et la fac, par exemple, j'ai adoré parce que je n'allais pas en cours. J'y allais que quand il fallait signer.
C'est pour ça que t'as adoré, oui.
Mais j'ai adoré. Mais par contre, j'allais à la bibliothèque universitaire et j'étudiais toute seule, je prenais tous les cours, etc. J'aime faire les choses par moi-même, j'aime être indépendante.
Okay.
J'adore ça. Du coup, tu me demandes mon métier de rêve. Moi, je voulais travailler dans le jeu vidéo. Donc, j'ai un peu réussi.
Un peu réussi, ouais.
Mais je savais pas quoi faire. Parce qu'il y a tellement de métiers dans le jeu vidéo dont on ne te parle pas, en plus, quand t'es ado, parce qu'on te dit, bon, le jeu vidéo, vas-y.
Oui, oui. Il n'y a pas de débouché.
T'as pas de débouché, ouais. Machin. Et moi, j'ai jamais voulu faire un métier pour faire un métier. Je voulais être heureuse. Et ça a été un vrai truc dans ma vie où je pleurais tous les soirs en rentrant, parce que les gens ne le savent pas forcément. Moi, je pars vers 18 ans, je cherche un métier alimentaire pour vivre et payer mon appart, et je n'ai pas repris d'études encore à ce moment-là. Donc, en attendant, je fais plein de petits jobs, je rentre le soir, je pleure, je me dis, mais en fait, je ne trouve toujours pas ma voie. Est-ce que c'est ça, la vie ? Je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Moi, je veux juste être heureuse. Et je m'en fichais de gagner des 1000 et des 100. Je voulais juste pouvoir payer mon loyer, à manger, et au moins, je m'éclate dans ma journée. Et au final, j'ai réussi, mais ça a été des années de combat, même intérieur. Donc, tu me demandes ce que je voulais faire. À la fac, je te dis, j'aurais peut-être voulu faire de l'étude des masses sur Internet et tout ce qui est marketing sociologique du consommateur, ce que je trouve super intéressant, parce que mes études étaient en éco-gestion, donc j'aurais fait peut-être un doctorat ou autre. Ouais. Par contre, tu me disais, quand je suis petite, le jeu vidéo.
Le jeu vidéo. Bah, t'as réussi.
Et j'ai réussi.
Bon. Magla, c'est l'heure de la question qui tue.
Okay.
La question est simple.
J'ai peur.
Enfin, elle est simple. À poser, à répondre, je ne sais pas. Est-ce que tu préfères ? Tu dois choisir quoi ? C'est un tu
c'est
préfères.
Un tu préfères.
C'est
aïe
plus
aïe
ou moins
aïe.
Un tu préfères. Ne plus jamais être filmé. Plus jamais te filmer, en tout cas.
Okay.
Ou ne plus jamais jouer aux jeux vidéo.
Oh ! Vous m'embêtez, là.
Ah oui, oui. Quel est le choix ?
Oh ! T'as 3 heures pour répondre à la question ou pas ?
Vraiment, il y a une minute, là.
C'est... Oh là là, c'est dur.
Une minute vingt, là, je crois.
En fait, c'est dur parce que j'aime tellement jouer aux jeux vidéo. Mais de l'autre côté, j'adore les gens. J'adore partager avec les gens.
Ouais.
C'est quoi ? Je vais choisir les gens. C'est bien pour vous. Hein.
Ah, c'est marrant parce que j'aurais été persuadé que tu allais choisir les jeux vidéo par rapport au fait que tu joues à ça depuis longtemps et que c'est la base.
Mais en fait, tu vois, jouer aux jeux vidéo, si je peux plus me filmer, je peux plus jouer aux jeux vidéo avec les gens. Donc ça veut dire que je joue toute seule. En fait, j'aime trop partager avec les gens. J'aime les gens en général, en fait.
Ouais.
Donc, au pire, on créera nos propres jeux.
Ok, très
ça,
bien.
Ça, je peux faire.
C'est peut-être ça l'objectif. C'est peut-être ça hein, que tu vas annoncer cette année. Un jeu vidéo créé par Magla ?
Peut-être.
Peut-être.
Oui, parce que je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas assez de sorties sympathiques. Je refais que des vieux jeux, là.
Ah, on s'ennuie un peu, tu trouves, dans l'actualité jeux vidéo ?
C'est aussi pour ça que je joue moins en live. Je refais des vieux jeux, là, Elden Ring, je joue toute seule sur mon canapé. Mais en fait, je m'embête, c'est que des remakes tout le temps. Et moi, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie d'un nouveau The Last of Us, tu vois, un nouveau truc.
Oh, Last of Us.
C'était tellement bien.
Le 2, meilleur jeu de tous les temps.
Incroyable.
Mais un peu comme dans le cinéma populaire américain, mais c'est un autre sujet, j'en ai marre des remakes et des reboots.
Ouais, j'en ai ras le cul. Voilà, pardonnez-moi pour l'expression, mais j'en ai marre.
Tu peux, on est d'accord. Magla, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui,
c'était
vraiment.
Trop bien.
Merci beaucoup. On rappelle donc que Danse avec les stars, ben, ça se commence ce week-end, samedi.
Oui. Ben, Vendredi.
Plein de bonnes choses, toute notre
merci.
Force. Hein. On espère que tu vas gagner.
Oh, moi, j'espère aussi.
Ouais, moi, je suis avec toi. Merci beaucoup, vraiment. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission qui était préparée par Alexa Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Coy, la programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Jérôme Ragano et David Didou et Black. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, je suis très heureux hein, toute cette semaine, mais demain on a Ino Casablanca.
C'est incroyable.
Et je sais que tu
écoutez Ino Casablanca,
voilà,
regardez ses clips aussi,
voilà,
c'est magnifique.
C'est génial. On se retrouve demain à 22h. Merci beaucoup, Magla.
Merci beaucoup.